Bonjour à tous, bienvenue dans l'Histoire des féministes, cette série d'émissions préparée, animée et réalisée par Jacqueline Grave, présidente de Femmes Solidaires 04. C'est donc la suite de cette série passionnante. Bonjour Jacqueline.
Bonjour Odile, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral. Aujourd'hui, nous entamons la troisième partie de notre récit et nous parlons de la deuxième vague, ou plutôt des prémices de la deuxième vague. L'acquisition du droit de vote et d'éligibilité en 1944 laissait espérer que les citoyennes allaient faire voter des lois en leur faveur pour faire aboutir enfin leurs revendications égalitaires entre les sexes. 33 femmes sont élues députées pour la première fois en 1945, mais le gouvernement légifère par ordonnance et c'était sans compter sur la résistance des hommes à conserver leur pouvoir politique et économique. La période que nous traversons est une période de transition, écrit Simone de Beauvoir dès 1949. Une transition qui correspond à la 4e République de 1946 à 1958, soit 12 ans, et au début de la 5e République. Pourtant, malgré les résistances masculines, les femmes politiques de l'époque ont su obtenir des avancées sociales concrètes dans les domaines socio-éducatifs où elles ont été confinées. L'apprentissage, la construction d'hôpitaux, la protection maternelle et infantile, le traitement des enseignants et des enseignantes, les colonies de vacances, l'aide aux invalides ou aux personnes âgées. Une femme militante acharnée pour l'égalité des salaires, Marie Couette, Couette comme une couette, comme ça se prononce, a la satisfaction de voir publier le 30 juillet 1946, juste après la guerre, un arrêté signé de Ambroise Croizat, C-R-O-I-Z-A-T, ministre du Travail, un arrêté qui supprime la diminution officielle de 10% du salaire féminin par rapport au salaire masculin. Une avancée légale largement imputable à l'ardeur de Marie Couette, même si la loi restera bafouée dans la pratique jusqu'à nos jours. Mais ces avancées ne masquent pas le fait que les femmes restent des femmes politiques de seconde zone dans la 4e République, dans l'ombre des hommes. Ce monde qui a toujours appartenu aux hommes, dit Simone de Beauvoir, est encore entre leurs mains. Les institutions et les valeurs de la civilisation patriarcale, en grande partie, se survivent. C'est en effet l'époque du familialisme triomphant, de la vision traditionnelle du rôle de la femme mère au foyer, la famille idéale. Cette vision imprègne notamment toute la législation de sécurité sociale qui va naître fin 1945, se poursuivre en 1946 et se développer par la suite. En effet, le 4 octobre 1945, une grande date, est publiée l'ordonnance qui crée le système de protection sociale pour les salariés ES et les salariés EES du commerce et de l'industrie. Alors, un petit rappel bref de ce qu'est la sécurité sociale, ça n'est pas hors sujet, me semble-t-il, parce que certains aspects concernent tout particulièrement les femmes. La sécurité sociale, c'est l'assurance sociale collective contre les aléas de la vie, maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accident du travail, financée par des cotisations prélevées sur les salaires et qui finance aussi les allocations familiales destinées à compenser le coût d'arrivée et d'entretien des enfants dans une famille. La sécurité sociale, selon le programme du Conseil national de la Résistance, vise, je le cite, à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils seront incapables de se les procurer par le travail. C'est la réalisation concrète de ce que Robespierre avait proposé dans son projet de constitution en 1793. Il disait ceci : les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'existence à ceux qui sont hors d'état de travailler. Trois lois en mai, août et septembre 1946 généralisent la sécurité sociale, étendent les prestations familiales et l'assurance vieillesse à la quasi-totalité de la population. C'est là l'œuvre de la 4e République pour répondre aux besoins cruciaux d'une population française en mauvais état physique, dû aux dures conditions de vie sous l'occupation. Nous les avons évoquées dans l'épisode précédent, le mois dernier. La nécessité d'encourager la reconstitution et le développement du capital humain de la nation imposait un effort particulier sur le plan sanitaire et familial. En premier lieu, il s'agit d'encourager la natalité, ce qui impacte directement la vie des femmes, vues comme des procréatrices. Ce n'est pas aux droits des femmes que l'on pense, mais à la famille, cellule de base de la société française. Un exemple de la conception du rôle des femmes par les législateurs de la sécurité sociale est cité par Jean-Jacques Dupérou dans son ouvrage « Le droit de la sécurité sociale », édition Dalloz, 1988. Il donne un extrait de l'exposé des motifs d'une proposition de loi pour abaisser l'âge de la retraite pour les femmes salariées. Je cite cet extrait des motifs. « Il est certain que la véritable tâche de la femme, c'est celle qu'elle accomplit chez elle et que notre société perd grandement de sa valeur, de son âme, en imposant aux femmes, pour des motifs matériels, de travailler hors de chez elles. Toutefois, ce n'est pas tellement par des arguments sociaux ou moraux que se justifie l'abaissement de l'âge de la retraite pour les femmes salariées. C'est principalement par des arguments économiques. Est-ce que les femmes salariées de plus de 55 ans sont des agents économiques actifs? Évidemment, non. Fatiguées, souvent malades, elles attendent l'âge de la retraite. Les employeurs les gardent parce qu'il serait scandaleux de les renvoyer. Mais il serait beaucoup plus profitable pour l'économie française de les rendre à leur foyer à 60 ans. Comme tout cela est bien dit. Comme chacun sait, le droit à la sécurité sociale est fondé exclusivement sur l'exercice d'une activité professionnelle. Aussi, la femme dite au foyer, qui n'exerce aucune activité extérieure rémunérée, est prise en charge concernant son assurance maladie, maternité, invalidité, décès, par son mari. C'est ce qu'on appelle un droit dérivé. La femme est le dérivé de l'homme, comme Ève était la dérivée d'Adam. En réalité, elle est prise en charge aussi par l'ensemble de la collectivité, de ceux et de celles qui cotisent à la sécurité sociale sur leur salaire pour ces assurances. Ainsi, plusieurs millions de femmes, dont la plupart perçoivent des salaires modestes, voire misérables, parce qu'elles sont majoritairement dans des métiers mal payés, contribuent sur ces salaires à entretenir les épouses oisives d'hommes riches. Paradoxe, mais qui perdure dans la mesure où l'on continue aujourd'hui à faire prendre en charge gratuitement par la sécurité sociale, par l'intermédiaire du conjoint, les femmes ayant choisi ou pas de ne pas travailler à l'extérieur, entre guillemets. La justice voudrait au contraire que pour cela, le conjoint paye une cotisation supplémentaire. Mais ce progrès social indéniable qu'est la sécurité sociale créée par des hommes est encore et toujours basé sur cette idée du couple où le mari est vu comme le pourvoyeur des ressources, le seul sujet agissant, l'épouse est la ménagère du foyer, la mère des enfants, bref, la fée du logis. Il y a la fée Mélusine, il y a la fée Carabosse et il y a la fée du logis. On lui fait miroiter le bonheur du foyer avec la sécurité, le confort, les arts ménagers. C'est le temps du triomphe de la ménagère modèle, sans doute heureuse, mais sûrement entièrement dépendante d'un homme, éternelle mineure comme les enfants, ainsi que le prônait le Code civil de Napoléon. Mais voilà qu'en juin, puis en novembre 1949, se produit en France un événement majeur pour les femmes et les féministes, la parution de l'essai de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, en deux tomes, immédiatement traduit dans plusieurs dizaines de langues, ce qui le rend accessible partout. À sa lecture, les femmes du monde entier prennent soudain conscience de l'iniquité de leurs conditions, effet de culture et non de nature. Dans cet essai de 1000 pages, la philosophe délaisse le terrain législatif des féministes de la première vague, dont la volonté est en train de s'accomplir, et cette période s'achève. Elle fustige, par contre, le naturalisme et le déterminisme, fondement de l'inégalité des sexes. Pour elle, la femme telle qu'elle est perçue par la société, telle qu'elle se vit elle-même, est le produit d'une civilisation à domination masculine dont il s'agit de faire le procès pour comprendre ce qui se passe, puis inviter au changement. L'analyse des motifs de cette domination montre, entre autres choses, que dès les premières années de vie, par exemple, la vocation du garçon et celle de la fille leur sont impérieusement insufflées, dit-elle. Aux garçons, les valeurs dites viriles, l'insensibilité, le goût de la compétition, de la bagarre, de la violence et même de la guerre. À la fille, les valeurs dites féminines, la discrétion, l'obéissance, la tempérance, la sensibilité, la douceur, l'empathie. Simone de Beauvoir démontre la construction socio-culturelle inscrite dans la collectivité humaine où rien n'est naturel. Elle dénonce le caractère socio-historique attaché à la notion de femme et de ce point de vue, elle annonce la notion de genre. Dans cette civilisation, la femme est réduite à sa capacité de procréatrice pour le bien de la nation, on l'a déjà dit, qui bride, qui limite sa liberté et ses potentialités, c'est-à-dire ses talents latents ou cachés. Elle en conclut qu'on ne naît pas femme, on le devient, socialement parlant. Elle déplore la condition de mère au foyer, sorte d'esclavage domestique, sauf pour les plus riches d'entre elles qui peuvent s'offrir des services domestiques, celles qu'elle appelle les femmes bourgeoises oisives qu'elle connaît bien. Voici comment elle les décrit. Je cite « Leur vaine arrogance, leur radicale incapacité, leur ignorance butée en font les êtres les plus inutiles, les plus nuls qu'ait jamais produit l'espèce humaine. » Avec courage, elle n'hésite pas à dénoncer chez les femmes elles-mêmes, moitié victimes, moitié complices, comme disait Sartre, la connivence qui les lie à leurs dominants. Comme le faisait déjà Olympe de Gouges en 1792, rappelons-nous son cri « Femmes, réveillez-vous ». Cette position en complet décalage avec le familialisme triomphant dans cette période de baby-boom d'après-guerre provoque un véritable scandale. Par sa remise en cause radicale du mode de vie, le bonheur au foyer pour les femmes, le deuxième sexe a pu déplaire à certains lecteurs et lectrices, de droite comme de gauche, à certaines femmes comme aux hommes. Par peur du scandale politique, les associations féministes, y compris l'Union des femmes françaises, l'UFF, qui au contraire valorise le corps féminin et son contre-l'avortement, restent réservées et muettes dans le débat violent qu'il provoque. Mais généralement, les femmes, elles, ne s'y trompent pas. Le livre est un immense succès international, connu comme un vrai bréviaire du féminisme, révélateur et libérateur à la fois. La plupart des femmes féministes d'aujourd'hui n'ont pas lu Le deuxième sexe. Mais pour celles qui l'ont lu, à sa parution ou plusieurs années après, aucune ne sort indemne de ce texte fondateur. Il y a deux réactions. Pour les femmes mariées, mères au foyer, qui apprécient leur existence prise en charge et protégée par un homme, cette étude est une grande violence par sa remise en cause de leur raison d'être. Pour d'autres, elle procure un immense soulagement, un grand enthousiasme, le sentiment d'être enfin comprise, de se reconnaître à travers les mots de Simone de Beauvoir, faute d'avoir su ou pu les exprimer d'elle-même. C'est une véritable révélation. Une prise de conscience de l'absurdité de leur vie, de la condition d'infériorité qui leur est imposée. Un livre d'un grand secours dont elles se souviendront et s'inspireront avec bonheur 20 ans plus tard et toute leur vie en devenant les féministes de la deuxième vague. Dans le deuxième tome notamment, Simone de Beauvoir préconise l'égalité de l'éducation, la fin de l'asservissement à l'homme et encore plus audacieux, la contestation de l'instinct maternel et la libération sexuelle, qui est un sujet de nos jours. Il est bienvenu de rappeler le formidable impact intellectuel de l'un des textes les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle. En ce sens, le deuxième sexe peut être qualifié de bombe à retardement. Oui, il a eu pour effet de provoquer chez les femmes, à retardement, c'est-à-dire dans les années 1970 et suivantes, leur rupture avec les partis politiques pour lesquels la lutte des femmes n'était que secondaire, la reprise en main par elles-mêmes de leur destinée propre, à savoir la remise en cause de leurs conditions de vie, la dénonciation des méfaits sur leur santé, des grossesses non désirées, faute d'accès à une contraception légale et efficace, la dénonciation des avortements dangereux, la dénonciation aussi de la solitude des femmes mariées confinées au foyer idéal, même si les arts ménagers allègent leur corvée quotidienne d'entretien du domicile, travail jamais fini, invisible, jamais reconnu par la famille elle-même. On connaît le slogan publicitaire de l'époque « Moulinex libère la femme ». Moulinex est une marque d'appareils ménagers qui fabrique des robots électriques pour faire la cuisine ou le ménage. Et d'ailleurs, les cadeaux qui leur sont offerts pour la journée dite de la fête des mères sont le plus souvent des appareils ménagers ou un bouquet de fleurs coupées, récompense éphémère et dérisoire pour le dévouement de la reine d'un jour, comme la surnomment maintenant les publicités incitatives à la consommation. Alors, pour une petite respiration, nous faisons une pause musicale de quelques minutes et nous écoutons la 6e symphonie de Beethoven, la pastorale, un extrait, le 5e mouvement, qui correspond au calme après l'orage dans la forêt. Oui, alors donc après cette belle musique, la pastorale, je reprends. Dans les années 1950, horrifiée à la vue du désespoir des mères qui, contre leur gré, sont des mères de familles nombreuses, une gynécologue, Marie-Andrée Lagroua, veulent aller. Alors c'est un nom à rallonge, son vrai nom c'est Marie-Andrée Lagroua, L-A-G-R-O-U-A, et veulent aller, c'est le nom de son mari, un médecin. 1916, et elle est morte en 1994. Elle mène une campagne contre la loi de 1920 qui interdisait la contraception et l'avortement avec Jacques de Rogy, D-E-R-O-G-Y, journaliste et ancien résistant communiste. Cette campagne aboutit à une étude intitulée « Des enfants malgré nous, le drame intime des couples ». Et le livre conclut que la contraception est le seul remède aux avortements clandestins qui provoquent le décès de 20 000 femmes par an en 1956 en France. Le 8 mars 1956 précisément, Marie-Andrée Lagroua et Evelyne Sullerot, S-U-L-E-R-O-T, fondent l'association féminine La Maternité Heureuse. Elles prônent la lutte contre les avortements clandestins grâce aux conseils donnés par des centres pour éviter d'être enceinte, pour, disent-elles, éradiquer les aiguilles à tricoter, l'écurtage à vif sans anesthésie qui malmène, estropie, stérilise et tue des femmes. Il faut lire à ce sujet le livre d'Annie Ernaux, L'événement, qui fait le récit d'un avortement dramatique par une jeune étudiante. Bien entendu, les hommes ne se sentent jamais concernés par ce drame, alors qu'ils en sont, eux aussi, complètement co-responsables. L'association devient, en 1960, le Mouvement français pour le planning familial, MFPF, et reçoit le soutien de Simone de Beauvoir. Fondée en juin 1961, le premier centre d'accueil du planning familial remporte un succès immédiat auprès des femmes. Elles y trouvent des diaphragmes et stérilés importés clandestinement par le centre. Elles recherchent désespérément le moyen de ne pas « tomber enceinte », entre guillemets, de ne plus avoir peur chaque mois en attendant anxieusement leurs règles. Nous sommes en 1961 et la loi de 1920 interdisant la publicité pour les moyens contraceptifs n'est pas tombée. Elle continue de s'appliquer et d'être défendue par certaines couches de la population. Sur le plan politique, la Ve République est néfaste aux aspirations des Françaises à jouer un rôle actif en ce domaine. Les nouvelles institutions et les partis politiques fonctionnent de telle sorte qu'ils ne leur laissent qu'une place réduite. Le général de Gaulle, élu président de la République depuis 1958, ne veut pas de femmes dans les affaires de l'État. Pourquoi pas un ministère du tricot, s'exclame-t-il quand on lui suggère un secrétariat d'État pour les femmes. Pas de femmes parmi les hauts fonctionnaires de l'État, préfets, ambassadeurs, recteurs, etc. Sous sa présidence et celle de Georges Pompidou, qui lui succède, les femmes et donc les féministes connaissent une véritable traversée du désert pendant plus de 15 ans. Ce n'est donc pas par l'exercice du pouvoir politique qui se limite au vote pour elles, mais par leur entrée massive dans le monde du travail, plus précisément du travail salarié, qui va irrésistiblement changer la situation des femmes dans les années 1960, notamment l'année 1965, où les femmes obtiennent le droit d'exercer une profession et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. 1965. La vie familiale devient compatible avec une implication professionnelle synonyme d'indépendance matérielle. Les femmes deviennent financièrement autonomes. Les couples avec deux actifs, actifs, inactifs, ce sont les termes de la sécurité sociale. Les couples avec deux actifs deviennent majoritaires. Alors, pour les femmes, arrive le temps du cumul vie professionnelle et vie familiale. Parce que les hommes ne les accompagnent pas dans ce changement. Il continue de participer très peu à la vie domestique. Une femme qui revendique sa liberté demande à disposer complètement d'elle-même, à être maîtresse de sa vie. Elle demande aussi, du coup, moins de protection. Dans ce monde d'hommes, être une femme libérée, c'était l'expression de l'époque, a son revers de la médaille. La liberté comporte des risques que les femmes sont cependant prêtes à assumer avec la ferme volonté de faire leurs preuves. La double journée de travail, par exemple, rendue possible physiquement par la généralisation de la pratique dite de la journée continue, à l'époque on l'appelait comme ça, elle permet d'avancer d'une heure l'heure de la sortie des bureaux, 17h au lieu de 18h, pour donner du temps à la deuxième partie de la journée, celle des corvées ménagères et du soin aux enfants ou aux ascendants. L'indépendance, la liberté, entraîne aussi souvent la solitude à cause de la fréquence des divorces, la vie sans compagnon, et le nombre des femmes seules avec enfants, les familles monoparentales, augmente. En fait, nous dit Michèle Perrot, historienne maintes fois citée, dans son ouvrage paru en 2023, « Le temps des féminismes », les femmes subissent ces dommages de leur libération, subissent de fortes discriminations sexistes persistantes de la part des hommes, tout comme s'il fallait les punir. Oui, dans la réalité de la vie quotidienne, la société, toujours majoritairement masculine dans sa gestion, se venge en punissant ainsi les femmes indépendantes. Mais la lutte pour acquérir cette indépendance, pour avoir le droit de mener sa propre vie à son gré, va se concentrer sur un point crucial, le droit à disposer librement de son corps, entendons par là les droits reproductifs, la contraception et l'avortement. C'est ce qui caractérise l'action des féministes de la deuxième vague et c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes, en juillet et les mois suivants.
Merci Jacqueline. Et donc, à très bientôt.
Au mois de juillet.
Au mois de juillet,
je pense.
Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Et vous retrouvez cette émission en ligne sur notre site www.fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains dans nos émissions. L'histoire des féministes par Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.